Et dans Chrétien de Troyes, elle a entre autres dans le Chevalier au Lion, c'est elle qui donne la pommade qui va guérir Ivan de la folie. Et c'est la, mais cette demoiselle la craigne quand même. Et il y en a une qui abuse un peu de la pommade en question parce qu'elle veut vraiment sauver Ivan qui est tout nu, tout beau, tout. Enfin bon. Et elle se dit qu'après elle va quand même avoir affaire à sa maîtresse et elle semblant trébucher sur un pont, elle jette la boîte d'onguent qu'elle a vidée alors qu'elle aurait dû en mettre juste une petite couche. Parce que quand Morgane n'est pas contente, il est évident que quand Morgane n'est pas contente, il est évident qu'on aurait beaucoup d'avoir. Donc il y a toujours ce côté puissance quand même. Et puis petit à petit, on va la voir équivoque, mais une équivoque justifiée dans les premiers romans en prose où on commence à vous dire qu'elle est très libre. Qu'elle est très libre, qu'elle a des amants, quoi, qu'elle a des amoureux, qu'elle est luxurieuse, mais on lui garde toujours son côté capable de soigner les gens, son côté quand même.
Le côté luxurieux, ça fait très fée aussi.
Oui, elles ont une sexualité très libre, quoi, tout simplement. Elles ne sont pas prises dans le carcan social qui est imposé à la femme ou à la reine. Quoi. Et Morgane y échappe, ce qui évidemment accroît le fossé d'incompréhension qui se crée autour du personnage, mais elle continue à avoir des traits comme ça assez étonnants. Et entre autres, l'habileté dans tout ce qui est travaux de tissage, broderie. Et ça, quand on le lit comme ça, on dit « bon, ben, c'est normal, toutes les femmes brodées, tissées, tapissées ». Sauf qu'elle, visiblement, c'est un don extrêmement brillant. Et quand on le lit, on se dit « mais en fait, sous ses fils, dans ses mains, c'est comme si elle faisait naître un monde ». Et ça, ça dépasse de beaucoup la simple dame qui fait sa petite tapisserie dans son coin. Et c'est pour ça qu'à un moment, elle offre un manteau à Guenièvre. Et là, on voit la scission qui est en train de bien se créer. Elle offre un manteau à Guenièvre, un manteau qui est absolument superbe, qu'elle a tissé. Il y a les couleurs de l'aurore, il y a les couleurs de la forêt. Et Guenièvre le prend, c'est sa belle-sœur. Elle ne peut quand même pas. Mais elle va en faire un tapis d'hôtel ou une chasuble, je ne sais plus, enfin un objet religieux. Ce qui évidemment va choquer Morgane, le fossé entre les deux belles-sœurs, là encore un fossé va se creuser. Mais pour Guenièvre, qui elle est toujours quand même plutôt placée du côté chrétien des dames arthuriennes, cet objet est à l'évidence sans le souffre. Quoi. Et on va voir avancer petit à petit, effectivement, on a beau la marier, certains romans la marient à l'autre, à Urien, enfin bon. Il y a des décalages hein, de Marie, mais c'est pas convaincant et elle reste beaucoup trop libre pour être assimilable dans le roman. D'où ce côté, malgré son mari, elle prend un amant et avec cet amant, elle va comploter pour prendre la couronne au roi Arthur. Et en même temps, il y a quelque chose chez elle qui est vraiment d'une femme de pouvoir, d'une femme d'ascendance royale, qui mériterait d'avoir ce pouvoir et qui parfois... trouve absolument que le roi n'exerce pas bien son pouvoir, que le roi est trompé par son épouse et que peut-être elle ferait mieux. Et si elle prend le pouvoir pour Accolon, l'histoire de l'épisode avec Accolon de Gaulle, il est évident qu'Accolon ne serait qu'un prétendant, c'est Morgane qui devrait avoir le pouvoir. Et il y a entre eux ce jeu d'amour, de passion, de haine, de rivalité qui va monter et qui va donner en un temps où le roman arthurien se christianise, qui va donner le plus mauvais rôle évidemment à Morgane. Mais comme on disait tout à l'heure, dans le même temps, on ne peut pas tout lui enlever. Et quelles que soient les choses qu'elle fasse, puisqu'il y a le manteau, qu'elle envoie le manteau qui s'enflamme, il y a le vol de l'épée, le vol du fourreau, elle fait tout ce qu'elle peut quand même. Quand elle change l'épée, quand elle change Excalibur contre une copie d'Excalibur, elle donne la vraie Excalibur à son amant, le roi se retrouve avec une fausse qui combat et le roi va mourir. C'est la dame du lac qui arrive, qui arrête le combat. Donc là, elle est sur le point de le tuer. Mais quand il est en train de mourir sur le champ de bataille, elle va le chercher pour le sauver. Mais d'une certaine façon, aussi, elle s'empare de lui. Il n'est plus qu'à elle. Il y a quelque chose, on regarde aujourd'hui, il y a peut-être aussi un attrait plus qu'équivoque entre cette sœur aînée qui n'a pas connu son frère et qui le retrouve roi. Il l'attire comme homme de pouvoir, il l'attire peut-être comme Morgane, on sent qu'elle a deux partenaires possibles au bout du compte, Merlin et Arthur. Et aucun des deux ne va vouloir...